أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی
un jour de grande joie et de bénédiction pour la Jamaat Ahmadiyya.
Jisme jume ki barakat bhi shamil ho gayi.
Et ce jour est accompagné des bénédictions du vendredi. Car 123 ans de cela, une grande prophétie s'est réalisée concernant la renaissance du Saint-Coran et concernant la renaissance de l'Islam. De même, la prophétie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée dans tous ses détails. Et le Messie promis et le Mahdi promis est apparu. Et avec le lancement de la Bayram ou de l'initiation, on a établi cette Jamaat des Akhirin, celle qui devait établir cette relation avec les premiers. Nous sommes parmi ces personnes chanceuses qui profitent de ces faveurs. Ainsi, tout Ahmadi qui déclare avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis l'Islam doit comprendre ce fait important. À savoir, après avoir prêté allégeance au Messie promis l'Islam, nous avons de grandes responsabilités. Le Messie promis l'Islam a lancé la tâche de la renaissance de l'Islam. Et cela requiert de ses suivants qu'ils apportent en leur personne une grande révolution afin que nous puissions profiter de ces faveurs, de ces bénédictions qui sont liées au Messie promis à l'Islam. Ainsi donc, tous les ans, le 23 mars, les Ahmadis ne doivent pas se contenter de se réjouir parce qu'aujourd'hui, nous allons célébrer la journée du Messie promis. On ne doit pas se contenter de dire qu'alhamdulillah, nous sommes dans cette Jamaat. Nous ne devons pas nous contenter non plus du fait que nous sommes au courant de l'histoire de la Jamaat ou des déclarations du Messie promis à l'Islam. Cela ne suffit pas. Ou il ne suffit pas d'organiser des rencontres. Nous devons voir à quel point nous sommes en train de nous acquitter de devoir envers la Bayra, envers le serment d'allégeance. Aujourd'hui est un jour où nous devons faire notre analyse. Nous devons analyser sur les conditions de la Bayra. Nous devons méditer sur les conditions de ce serment d'allégeance. C'est le jour où nous devons renouveler notre allégeance. Et nous devons aussi prendre la détermination que nous allons faire des efforts pour mettre en pratique les conditions de la Baïra. Nous devons louer et glorifier Dieu en ce jour en raison de l'accomplissement des promesses faites au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. De même, nous devons aussi envoyer des centaines de salutations, de daroud et de bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons toujours comprendre l'importance de cela. Et cela va se faire lorsque nous allons méditer sur les conditions de la Baïra, lorsque nous allons traduire cela dans la pratique. Comme rappel, aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois les conditions de la Baïra, du serment d'allégeance. De même, je vais vous présenter dans les paroles du Messie Promet Salam les attentes qu'il a à propos de nous, à propos de ces conditions. Celui qui se joint à la Jamaat Ahmadiyya doit respecter cette première condition. Il fait la promesse qu'il va respecter cette condition, à savoir qu'il va s'abstenir du shirk ou du fait d'attribuer des associés à Allah jusqu'au jour de sa mort. C'est-à-dire qu'il va toujours éviter le shirk ou le polythéisme. Le Messie premier déclare que le tawhid ne signifie pas que vous disiez tout simplement la ilaha illallah avec la langue, alors que dans votre cœur vous cachez des centaines d'idoles. Quiconque vénère ses propres plans ou ses desseins malveillants ou ses ruses, comme il aurait dû vénérer Dieu, ou celui qui dépend d'une autre personne, comme il aurait dû dépendre de Dieu seul, ou qui vénère son propre ego, comme il aurait dû vénérer Dieu seul, s'avère dans tous ces cas être un idolâtre, un polythéiste aux yeux d'Allah. Les idoles ne sont pas uniquement faites d'or, d'argent, de cuivre ou de pierre. Elles sont toutes choses, toutes paroles, toutes actions qui sont vénérées d'une manière qui sied uniquement à Allah. C'est-à-dire, cela concerne toute action, toute parole que l'on vénère d'une manière comme on devait vénérer Allah. Tout cela est considéré comme idole aux yeux d'Allah. Il dit, souvenez-vous que la vraie unicité de Dieu est celle qu'il désire que nous affirmions et sur laquelle le salut dépend, et de croire que Dieu, son être, est libre de tout associé, qu'il soit une idole ou un être humain, ou le soleil, ou la lune, ou son propre ego, ou sa ruse, ou sa déception. Et elle requiert aussi que nous admettions que personne n'a pouvoir sauf lui. Nous devons le considérer lui seul comme soutien, comme source d'honneur et de disgrâce. C'est-à-dire, il n'y a personne d'autre à part Dieu qui pourra nous honorer ou nous humilier. Et on ne doit pas accepter personne d'autre comme aide et soutien. De surcroît, il faut accorder à lui seul tout notre amour, notre adoration. Il faut lui accorder à lui seul notre humilité et nos espoirs et nos craintes doivent être liés à lui seul. Aucune unicité ne peut être complète sans ces trois types de catégories. Il est dit, premièrement, qu'il y a l'unicité de l'être, c'est-à-dire concevoir l'univers comme étant non existant par opposition à Dieu, c'est-à-dire n'accorder aucune importance à ce qui existe dans l'univers, et de considérer toute chose comme étant mortelle, comme étant dépourvue de réalité, de considérer toute autre chose sauf Dieu comme étant éphémère. Tout est mensonge, tout doit disparaître sauf Dieu. Deuxièmement, l'unicité dans les attributs, c'est-à-dire que la raboubia de Dieu, sa suzeraineté et l'uluhiya de Dieu sont restreintes à son être. C'est-à-dire que le Rab est uniquement notre Seigneur, notre Dieu. Et il est le seul Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. Il est la source de tout pouvoir. Ensuite, il dit, et que tous ceux qui semblent être des soutiens ou des bienfaiteurs, tous ceux qui s'occupent de nous, tous les soutiens, toute aide que nous recevons de la part d'autres qu'Allah, ne sont qu'en fait qu'une partie du système mis en place par Dieu. Tous ceux qui nous accordent des avantages sur Terre font partie de ce système mis en place par Dieu. Troisièmement, il a l'unicité dans l'amour et dans la sincérité et dans la dévotion, c'est-à-dire ne considérer personne comme associé à Dieu par rapport à l'amour et à l'adoration, et que l'on doit se perdre entièrement en Dieu, c'est-à-dire qu'on doit se consacrer uniquement à Dieu. Dans la deuxième condition, celui qui accepte l'Ahmadiyya promet qu'il va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, du regard malveillant, de la débauche, de la dissipation, de la cruauté, de la malhonnêteté, de la méchanceté, de la rébellion, et qu'il va se garder de tout emportement passionnel, quelle que soit son intensité. Le Messie premier, alayhi salam, déclare: en fait, aussi longtemps qu'une personne ne renonce pas aux raisons égoïstes qui l'empêchent de dire la vérité, elle ne pourra pas être considérée comme véridique. Lorsqu'une personne dit la vérité uniquement, lorsqu'elle n'a rien à perdre, mais a recours au mensonge lorsque son honneur, ses biens ou sa vie sont menacés, Et si dans de tels cas il ne dit pas la vérité, alors comment cette personne peut-elle être considérée meilleure que des enfants ou des nigauds? Il n'y a pratiquement aucune personne qui mentirait sans raison sur terre. Donc la vérité qui est délaissée lorsqu'on fait face à des pertes possibles ne peut jamais faire partie des vraies morales. La véritable raison de dire la vérité se présente lorsqu'on a peur pour sa vie, lorsqu'on a peur pour ses biens ou pour son honneur. Dans ce contexte, l'enseignement de Dieu est « Fajtanibu jidsa minal awthani, Fajtanibu qawla zur. Wala ya'aba shuhadaw idha ma'duru. Wala taktumu shahadata wa ma yaktumha fa innahu آثمون قلبو. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا والصادقين والصادقات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا يشهدون الزور. Le Messie premier alayhi salam présente la traduction de ces versets, dit: n'adorez pas des idoles et ne mentez pas, car le mensonge est aussi une idole. Celui qui dépend du mensonge cesse d'avoir confiance en Allah. En disant des mensonges, une personne perd Dieu. Ensuite, il est dit, lorsqu'on vous appelle pour témoigner de la vérité, eh bien, ne refusez pas. Ne cachez pas le vrai témoignage. Le cœur de celui qui le cache est assurément méchant. Lorsque vous parlez, dites uniquement ce qui est absolument vrai. Même lorsque vous témoignez contre un parent proche, accrochez-vous fermement à la vérité et à la justice. De plus, témoignez uniquement pour le plaisir de Dieu. Ne dites jamais de mensonges, même si la vérité pourrait mettre en danger votre vie ou la vie de vos parents ou la vie de vos bien-aimés, notamment vos enfants. Et ne laissez pas l'animosité que vous entretenez envers un peuple vous empêcher de donner de vrais témoignages. Les hommes véridiques et les femmes véridiques auront de grandes récompenses. Ils ont l'habitude de conseiller les autres à dire la vérité et ils ne tiennent pas compagnie aux menteurs. Ensuite, le Messie premier, alayhi salam, nous explique cela davantage en disant: Il y a un nombre de points dans cette deuxième condition. Il dit, ne vous approchez pas de l'adultère, c'est-à-dire évitez toutes les occasions qui créent de telles pensées en vos esprits. Évitez tous les moyens qui risquent de vous entraîner vers un tel péché. Quiconque commet un tel péché est arrivé à la limite du péché. Aujourd'hui, il y a des émissions à la télé, il y a des chaînes de télé, il y a aussi des sites internet qui poussent à commettre ces péchés et qui invitent vers ces péchés. Il y a aussi l'adultère par les yeux que l'on doit aussi éviter. En tout cas, on doit éviter toute chose qui nous mène vers ce mal. Le Messie premier l'Islam déclare « L'adultère est une mauvaise chose. Elle vous empêche d'atteindre votre véritable objectif et est très dangereux pour vous. Quel doit être votre objectif final ? C'est le plaisir de Dieu. » Voilà l'objectif final et l'adultère est un obstacle sur cette voie. À propos de cette deuxième condition, le Messie premier l'Islam a déclaré que le Saint-Coran, qui stipule des directions appropriées par rapport aux désirs naturels et aux faiblesses de l'homme, a adopté à ce propos une excellente stratégie. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Dit aux croyants de restreindre leurs regards et de préserver leurs fourouges. Cela est plus pur pour eux. Furuj n'implique pas uniquement les parties privées. Il implique toutes les entrées dans le corps, les oreilles incluses. Il a été défendu d'écouter les chanceux d'une femme qui n'a aucun lien de parenté avec vous. Souvenez-vous, des centaines d'expériences l'ont prouvé, que si Dieu a défendu quelque chose, l'homme doit tôt ou tard le délaisser. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare, l'Islam enjoint aux hommes, de même qu'aux femmes, d'observer ces conditions. Tout comme les femmes doivent porter le voile, de même les hommes sont enjoints de baisser leur regard. Donc la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, la distinction entre le halal et le haram, éviter les coutumes non islamiques pour honorer les injonctions de Dieu, voilà les commandements qui font que la porte de l'islam est très étroite. Et c'est pour cette raison que tout le monde ne peut pas y entrer. À propos de l'immoralité, le Messie premier l'Islam a déclaré, lorsque la perversité et l'immoralité avaient dépassé toutes les limites et que les musulmans ont commencé à transgresser les commandements et les signes de Dieu, et lorsque ces personnes s'étaient perdues dans les affaires mondaines, et c'est là que Dieu a causé leur ruine aux mains de Hulagu-Khan et de Genghis Khan. Il est écrit qu'à ce moment, on a entendu un cri du ciel. Ayyuhal kuffar, oktul fujjar. C'est-à-dire, ô incroyants, tuez les transgresseurs, les immoraux. Bref, les méchants et ceux qui sont immoraux sont plus bas et plus détestables que les incroyants aux yeux de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré, ne vous engagez pas dans des disputes ou des désaccords avec ceux qui vous quittent parce que vous vous êtes joints à un mouvement établi par Dieu le Tout-Puissant. Au contraire, priez pour eux en secret pour qu'Allah leur accorde la perspicacité et la connaissance qu'il vous a accordée. Avec vos exemples de piété et de conduite, prouvez que vous avez adopté le droit chemin. Écoutez, j'ai été chargé de vous conseiller constamment d'éviter toutes les occasions de disputes et de troubles. Soyez patient, même si vous entendez des injures. Répondez au mal par le bien. Si vous rencontrez des désaccords, éclipsez-vous dans une telle situation ou répondez avec des paroles gentilles. Je ne suis pas content lorsque j'entends que quelqu'un de ma jamaat s'est querellé en dépit du fait d'être un membre de ma jamaat. Allah n'aime pas que la jamaat destinée à devenir un modèle pour l'humanité adopte de telle manière qu'il ne soit pas conforme aux normes de la taqwa. Certainement, je vous dis qu'Allah a tellement mis l'accent dessus que si quelqu'un qui se déclare être de ma jamaat ne démontre pas de la patience et la persévérance, et bien cette personne n'est pas de ma jamaat. Le sommet des provocations que vous pourrez subir serait d'entendre des gens m'insulter, c'est-à-dire d'insulter le Messie promis. Laissez cela entre les mains de Dieu. Vous ne pourrez pas juger cette affaire. Laissez ma cause entre les mains de Dieu. Vous devez être patient même quand vous entendez de telles insultes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan. Et là-bas, cette animosité, ces insultes sont arrivées à leur comble, des insultes qu'ils profèrent à l'encontre du Messie promis à l'Islam. La seule solution, c'est de prier, et de prier beaucoup. Ensuite, le Messie promis à l'Islam nous conseille en disant: acceptez ce qui a été admis par l'intelligence et par la conscience humaine et qui est attesté par les livres de Dieu. Il est dit: ne commettez pas l'adultère, ne mentez pas, évitez le mauvais regard, protégez-vous du mal, de l'immoralité, de la cruauté, de la malhonnêteté et de toute forme de rébellion, et ne vous laissez pas emporter par vos désirs charnels. Restez établis sur les cinq prières quotidiennes, car la nature humaine est soumise à cinq types d'épreuves. Soyez reconnaissants envers votre noble messager, invoquez des bénédictions sur lui, car c'est lui qui vous a montré le moyen de reconnaître Dieu dans cette ère d'obscurité. Dans la troisième condition du serment d'allégeance, l'initié promet d'offrir les cinq prières quotidiennes selon les commandements de Dieu et de son prophète. Et dans la mesure du possible, il va essayer d'offrir la prière tahajjud. Et il va invoquer le Daroud sur le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va faire sienne l'habitude de demander quotidiennement le pardon de ses péchés, et qu'il va se souvenir des faveurs d'Allah, et qu'il va lui rendre louange et gloire. Le Messie promis, alayhi wa sallam, déclare: ô vous qui considérez être les adhérents à ma jamaat, vous ne serez pas reconnu comme tel au ciel tant que vous n'empruntez pas la voie de la vraie droiture. Observez vos cinq prières quotidiennes avec une telle crainte révérentielle de Dieu comme si vous le voyez réellement. Observez fidèlement le jeûne pour son amour. Si selon la loi, vous êtes dans l'obligation de payer la zakat, alors acquittez-vous-en. Si vous êtes capable d'effectuer le pèlerinage à la Mecque et s'il n'y a aucun empêchement, alors accomplissez-le. Faites le bien par amour pour le bien, renoncez au mal par dégoût pour le mal. Sachez qu'aucune action dépourvue de taqwa ne s'élève jusqu'à Dieu. La droiture, la taqwa est la source de toute vertu. Si la source n'a pas tari, l'acte fleurira. Ensuite, le Messie promis, alayhi salam, déclare: la prière est tellement puissante qu'à travers elle, les cieux s'inclinent vers l'homme. C'est-à-dire, Dieu se rapproche de l'homme s'il s'acquitte de ses devoirs. Celui qui rend pleinement justice à la prière sent comme s'il était mort, son âme fondant et tombant devant le seuil de Dieu. Une maison où la prière est offerte de cette façon, cette maison ne sera jamais détruite. Il est rapporté dans un hadith que si la prière avait été prescrite au peuple de Noé, eh bien ce peuple n'aurait pas été détruit. Le hajj est obligatoire avec certains préalables, tout comme le jeûne et la zakat. Cependant, l'ordre d'offrir la salat est inconditionnel. Toutes ces obligations doivent être respectées une fois par an, mais la prière est prescrite cinq fois par jour. Tant que la prière n'a pas été observée en accord avec toutes ces conditions, elle ne pourra pas apporter ces bénédictions qui lui sont attachées. Et une telle allégeance sera complètement futile. À propos de la prière tahajjud, le Messie promis alayhi salam déclare: réveillez-vous la nuit, suppliez Allah pour qu'il vous guide sur le droit chemin. Les compagnons du saint prophète avaient reçu leur formation petit à petit. Dans quel état avaient-ils été auparavant? Ils étaient comme la graine semée par un fermier. Le saint prophète, à son tour, l'a arrosé, a prié pour elle. La semence était bonne et le sol fertile. Suite à l'arrosage, il a produit un fruit excellent. Ils ont marché sur la voie du prophète sans aucune hésitation. Ils n'ont pas attendu le jour ou la nuit. Vous devez vous repentir avec un cœur sincère. Réveillez-vous pour la prière tahajjud. Redressez vos cœurs. Délaissez vos faiblesses. Faites que vos paroles et vos actes soient conformes à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. À propos du Daroud, il a déclaré, l'homme est soit un serviteur, soit esclave. Un esclave est celui qui obéit à tous les ordres de son maître. De même, si vous voulez atteindre la grâce à travers le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est primordial que vous deveniez son esclave. Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, « Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim » Ici, esclave signifie un serviteur obéissant et non une création. Pour devenir un esclave du saint prophète, il est essentiel d'invoquer les bénédictions d'Allah sur lui et de ne désobéir à aucun de ses commandements, d'accomplir toutes ses instructions à la lettre. À propos de l'istighfar, le Messie premier alayhi salam déclare si quelqu'un recherche la force d'Allah, c'est-à-dire fait l'istighfar, ses faiblesses peuvent être enlevées avec l'aide de l'Esprit Saint et il peut être protégé des péchés à la manière des prophètes et des messagers. De plus, si quelqu'un est déjà pécheur, l'istighfar peut lui sauver des conséquences de ses mauvaises actions, c'est-à-dire de la punition. S'il a commis une faute, eh bien, l'istighfar va le protéger des conséquences de ses mauvaises actions. Car aucune obscurité ne peut durer en présence de la lumière. Or, ceux qui font le mal et qui ne font pas l'istighfar, qui ne demandent pas la grâce de Dieu, eh bien, ces personnes devront subir les conséquences de leurs mauvaises actions. Dans la quatrième condition, on promet de ne pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit avec sa langue ou avec ses mains ou autrement. Le Messie premier alayhi salam déclare parmi ses vertus, la première qualité morale est le pardon, c'est-à-dire le fait de pardonner les fautes d'autrui. Puisque la personne qui commet une erreur fait du tort à son prochain et devient sujette à la punition, ou à l'emprisonnement, ou à l'amende, ou encore à la punition immédiate. C'est donc pour cette raison que le pardon est une qualité morale. Ainsi, lui pardonner, si le pardon est approprié, sera une bonne action. À ce propos, le Saint-Coran déclare « Wal kadhimin al raydha wal afin anin nas » C'est-à-dire que les vertueux sont ceux qui réfrènent leur colère lorsque c'est approprié et qui pardonnent lorsqu'il est approprié de pardonner les péchés. La punition d'une faute doit être proportionnelle à cette dernière. Dans les situations où le pardon des péchés apporterait la réforme sans que cela puisse causer du tort, c'est-à-dire où le pardon est accordé lorsqu'il apportera la réforme et qu'il ne va pas encourager le péché. Eh bien, dans de tels cas, ce pardon mérite récompense. Ensuite, le Messie premier d'Islam déclare « Un homme ne doit pas être ni arrogant, ni indécent, ni grossier envers les autres. Il doit agir avec amour et bonté et ne doit pas entretenir de mauvais sentiments envers quiconque en raison de ses affaires personnelles. Il doit agir fermement, gentiment, selon les occasions et les conditions. » À propos de l'humilité, le Messie premier d'Islam recherchait le pardon d'Allah avant que la punition de Dieu n'arrive auprès de la porte du pardon. Alors que les lois mondaines sont craintes, pourquoi les lois de Dieu ne le sont-elles pas? Lorsque les calamités surviennent, on doit les endurer. Tout le monde doit essayer de se lever pour le tahajjud et d'inclure le qunut dans les cinq prières quotidiennes. Repentez-vous de toutes choses qui puissent vous faire encourir la colère de Dieu. Le repentir signifie d'une part, abandonner toutes les mauvaises actions, ainsi que toute chose qui va à l'encontre du plaisir de Dieu, et subir un changement complet en faisant des progrès, en adoptant la voie de la taqwa. En ceci réside la miséricorde de Allah. Faites en sorte que vous puissiez être décent. Adoptez les bonnes qualités morales. Évitez la colère. Remplacez cela par la gentillesse et la docilité. Et adoptez de bonnes qualités morales. Et vous devez aussi faire la charité. Ce qui signifie que pour rechercher le plaisir de Dieu, vous donnez à manger aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux. De surcroît, vous dites que vous faites cela uniquement pour le plaisir d'Allah et vous craignez le jour extrêmement terrible. En bref, priez, demandez pardon, faites de la charité afin qu'Allah, le Tout-Puissant, puisse agir avec grâce et miséricorde envers vous. Dans la cinquième condition, on promet de demeurer loyal à Allah dans toutes les vicissitudes de la vie, dans le malheur, le bonheur, dans l'adversité, la prospérité, et que l'on va se résigner dans toutes les situations au décret d'Allah, et qu'on sera prêt à prêter toutes sortes d'humiliations et de tourments dans le chemin de Dieu, et que l'on ne va pas se détourner de Dieu lorsque surgissent les revers. Au contraire, on va marcher de l'avant. Le Messie premier déclare les plus élevés en grade parmi les gens, c'est-à-dire ceux qui sont complètement perdus dans le plaisir d'Allah, sont ceux sur lesquels la miséricorde d'Allah descend. C'est-à-dire ces gens se vendent pour acheter le plaisir de Dieu. Ces gens ne se soucient pas de leur vie. Ce sont ces gens-là qui reçoivent la miséricorde d'Allah. Et le Messie premier l'Islam continue en expliquant un verset, en disant « C'est seulement celui qui se vend dans ma voie et pour mon plaisir qui est épargné des tribulations. Il prouve de toutes ses forces qu'il appartient à Dieu et considère son être tout entier comme quelque chose qui a été façonné pour l'obéissance du Créateur et le service de la création. » Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Un être cher de Dieu vend son être dans le chemin de Dieu. En retour, il obtient le plaisir de Dieu. C'est sur lui que descend la miséricorde spéciale d'Allah. » À propos de la fidélité que l'on doit éprouver pour la cause de Dieu, le Messie premier l'Islam déclare « Tout croyant sincère passe par ces étapes. S'il devient sien en toute sincérité et fidélité, Allah devient son ami. Cependant, si l'édifice de la foi est faible, alors il y aura des dangers. Nous n'avons aucune connaissance des secrets du cœur d'autrui, mais quiconque appartient à Dieu entièrement obtient sa protection. Même s'il est le Dieu de tout le monde, il se manifeste tout particulièrement à ceux qui s'offrent à lui. S'offrir à Dieu signifie l'annihilation complète de l'ego au point qu'il n'en reste rien. » C'est pour cette raison que j'enjoins encore et encore aux membres de ma jamaat qu'ils ne doivent pas être fiers d'avoir prêté le serment d'allégeance. Si le cœur n'est pas purifié, il n'y aura aucun mérite à placer leurs mains dans ma main. Cependant, celui qui fait un serment sincère obtient le pardon même pour les péchés majeurs. Et il reçoit une nouvelle vie. Dans la sixième condition, on promet d'éviter de suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins, et de se soumettre à l'autorité du Saint-Coran, et de considérer la parole d'Allah et les traditions du Saint-Prophète comme les guides principaux dans toutes les sphères d'activité de sa vie. Je vais citer un hadith à ce sujet. Dans ce hadith cité par Amr bin Auf, il rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait renaître n'importe quelle composante de ma sunna, afin que les autres commencent à la mettre en pratique, eh bien cette personne aura une récompense équivalente à celle de toutes les personnes qui suivent cette sunna, sans que la récompense de ces dernières n'en soit réduite pour autant. La personne qui introduit une innovation que les autres adoptent recevra sa part des péchés de tous ceux qui agissent dessus, sans que les péchés de ces derniers n'en soient réduits pour autant. » Le Messie premier l'Islam déclare « Regardez, Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran « Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah » Le seul moyen de plaire à Allah et de vouer une obéissance complète au saint prophète. Il n'y a aucune autre voie qui vous mènera vers la communion avec Dieu. L'objectif final de l'homme devra toujours être à la recherche du Dieu unique qui est sans partenaire. Il doit éviter à tout prix d'associer quiconque à Dieu et s'adonner aux innovations. Il se doit d'obéir au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas suivre ses désirs libertins et ses désirs bas. Nous avons un seul prophète et un seul Coran qui a été révélé à ce prophète, à travers lequel, si nous lui obéissons, nous trouverons Dieu. Les innovations introduites par les fuqara de nos jours et les daroud et les wazaïf, les prières incantatoires inventées par les dirigeants des ermitages, sont des instruments qui induisent les gens en erreur. Évitez cela. Ces gens-là ont essayé de briser le sceau des prophètes, et en quelque sorte, ces gens ont fabriqué une nouvelle charia. Vous devez vous souvenir que la clé pour ouvrir la porte des bénédictions et des grâces d'Allah est seulement de s'adhérer aux injonctions du Saint-Coran, de suivre le Saint-Prophète et d'établir la prière et de continuer à jeûner comme il a été prescrit. Celui qui adopte une voie autre que celle déjà établie est perdu. Celui qui n'agit pas conformément aux injonctions d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et adopte des voies différentes, mourra dans l'insuccès. Dans la septième condition, on promet de renoncer complètement à l'orgueil, à la vanité, et de vivre dans l'austérité, dans l'humilité, dans la bonne humeur et la patience, et d'avoir un caractère doux. À propos de l'arrogance, le Messie promis alayhi salam déclare: je vous le dis en toute vérité qu'au jour du jugement, après le shirk, il n'y aura aucun grand péché comparable à l'arrogance. C'est un mal qui apporte la disgrâce à l'homme dans les deux mondes. La miséricorde divine réforme tout être qui croit en l'unicité de Dieu, mais ne réforme pas celui qui est arrogant. La miséricorde de Dieu s'applique à toute personne qui croit en l'unicité de Dieu. Et Dieu pardonne les péchés de cette personne, mais il ne pardonne pas l'arrogant. Satan, lui aussi, revendiqua croire en un seul Dieu. Toutefois, il fut arrogant, méprisant envers Adam. Adam qui fut aimé de Dieu. Satan le critiqua et fut anéanti. Le joug de la malédiction pesa sur lui. Ainsi, le premier péché pour lequel l'homme a été éternellement ruiné est certainement l'arrogance. Ensuite, le Messie promet les salam déclare: si vous avez une particule d'arrogance, d'hypocrisie, de vantardise, d'indolence, alors vous ne serez pas digne d'acceptation. Ne vous méprenez pas sur certaines petites choses que vous avez pu réussir, car Dieu désire que votre être tout entier subisse une révolution complète. Il requiert une mort de vous après laquelle il vous donnera la vie. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare à propos des humbles: si vous voulez trouver Allah, recherchez-le auprès du cœur des pauvres. C'est pour cette raison que les prophètes de Dieu avaient adopté la pauvreté. De même, les grandes nations sont appelées à ne pas se moquer des petites nations. Personne ne devra dire que leur ascendance est supérieure à une autre. Allah déclare que lorsque vous venez à moi, je ne vous demanderai pas à propos de votre appartenance. La question portera plutôt sur vos actions. De même, le prophète de Dieu avait dit à sa fille: ô Fatima, Allah ne te demandera pas à propos de ta lignée. Si tu fais un mal, Allah le Tout-Puissant ne t'excusera pas parce que tu es la fille du prophète. Ainsi, tu devrais te surveiller à tout moment et surveiller tes actions. Dans la huitième condition, on promet de tenir la foi, l'honneur de la foi et la cause de l'islam plus chère que sa vie, sa richesse, son honneur, ses enfants et les êtres les plus chers. Le Messie promet à l'Islam déclare à ce sujet: la renaissance de l'islam requiert une rançon de nous. Quelle est cette rançon? Elle requiert que nous mourions dans cette voie. C'est la mort sur laquelle la vie de l'islam, la vie des musulmans et la manifestation de Dieu vivant dépend. Ceci est exactement ce qu'est l'islam. Dieu désire raviver ce même islam. Pour entreprendre cette tâche importante, il est primordial qu'un grand plan qui serait efficace sous tous ses aspects soit établi sous sa propre initiative. Donc, le sage et puissant Dieu a fait exactement cela en envoyant cet humble pour réformer l'humanité. Donc le but de l'avènement du Messie promis l'islam est de réformer l'islam et nous devons méditer sur cela. Dans la neuvième condition, on promet de se dévouer au service des créatures d'Allah uniquement pour la cause d'Allah et d'œuvrer au bien-être de l'humanité au moyen de ses compétences et des facultés octroyées par Allah. Le Messie promis l'islam déclare « Souvenez-vous qu'Allah aime beaucoup les bonnes actions. » Il désire que vous démontrez de la sympathie pour sa création. S'il avait aspiré au mal, il vous aurait ordonné d'être mauvais. Mais la majesté de Dieu est libre de cela. Saint est Allah, grande est sa station. Donc, ceux qui ont établi une relation avec moi doivent se souvenir que vous devez compatir avec tous, peu importe leur religion. Vous devez être bon envers tous, sans aucune discrimination, car ceci est l'enseignement du Coran. Ces captifs qui venaient au Saint-Prophète étaient dans la plupart des cas des incroyants. Maintenant, vous pouvez voir l'envergure de la bonté de l'islam. D'après moi, le parfait enseignement moral ne peut être trouvé autre part qu'en islam. Ensuite, le Messie promis l'islam déclare « Je suis profondément peiné lorsque je vois ou j'apprends que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements de l'islam. Ces incidents ne me plaisent pas. » Je considère toujours ma jamaat comme un enfant. Un enfant qui fait deux pas et chute quatre fois. Or, je crois fermement qu'Allah la rendra parfaite. Donc, vous devez faire des efforts, planifier, œuvrer, prier constamment pour qu'Allah démontre sa grâce. Car rien n'est possible sans sa grâce. Lorsqu'il octroie ses faveurs, il ouvre toutes les voies. Ensuite, il déclare « Faites montre de bonté et de miséricorde envers ces créatures ». Ne leur faites aucun mal, ni par votre langue, ni par vos mains, ni par d'autres moyens. Œuvrez à promouvoir leur sort. N'agissez pas de façon orgueilleuse avec personne, même si c'est votre subalterne ou votre serviteur. N'insultez personne, même si on vous insulte. Soyez humble, gentil. Éprouvez de la vraie sympathie pour vos semblables, afin que Dieu vous accepte. Si vous êtes grand, ne méprisez pas ceux qui sont au-dessous de vous. Si vous êtes érudit, ne méprisez pas les ignorants, éclairez-les et donnez-leur de bons conseils. Si vous êtes riche, servez les pauvres et ne soyez pas arrogants envers eux, craignez les voies de la destruction. Dans la dixième condition, on promet de nouer un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, lui vouant obéissance en toutes choses, qui soit bonne pour l'amour d'Allah et d'y être fidèle jusqu'à la mort, d'exercer dans l'observance de ce lien une dévotion telle qu'elle ne sera pas perceptible dans aucune autre relation. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet « Ce prophète, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, vous oriente vers des choses qui ne sont pas opposées à la raison saine. Et il vous défend les choses que la raison vous empêche de faire. Et il rend légales les choses pures, illégales les choses impures. » Et il enlève les fardeaux sous lesquels les nations sont enfouies. Il les libère des chaînes qui empêchaient leurs coups de se redresser. Donc, ces gens qui croiront en lui et qui leur renforceront en se joignant à lui et qui l'aideront et qui suivront la lumière qui est descendue avec lui, ces gens seront sauvés des difficultés dans ce monde et les difficultés de l'au-delà. C'est-à-dire, on doit suivre les voies de la charia, les commandements qu'on a donnés. On doit suivre ces commandements. Et c'est ainsi que l'on pourra se libérer des chaînes de ce bas monde. Le Messie promis déclare, « À présent, précipitez-vous vers moi, car c'est le moment où celui qui se rue vers moi est comme celui qui monte à bord d'un bateau, juste à l'instant où frappe un cyclone. » Or, si quelqu'un ne m'accepte pas, je perçois qu'il se jette dans une tempête et il n'y a aucun moyen de s'en sauver. Je suis un vrai intercesseur. Je suis comme une ombre et un reflet de cet intercesseur exalté, c'est-à-dire le saint prophète, qui ne fut pas accepté par le peuple ignorant de cette époque et qui fut sévèrement insulté. C'est-à-dire ceux qui ont rejeté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare en nous prodiguant quelques conseils, il déclare « Ô vous mes chers amis, ô vous les branches florissantes de l'arbre de mon être, grâce à la miséricorde de Dieu dont vous jouissez parce que vous m'avez prêté le serment de la Bayra, vous êtes en train de dévouer votre vie, vos conforts et vos biens pour cette cause. » Par la suite, le Messie promet l'Islam déclare « Qui est mon ami ? Qui m'est cher ? Uniquement celui qui me reconnaît, uniquement celui qui croit en moi, celui qui croit que j'ai été envoyé et qui m'accepte comme ceux qui ont été acceptés, ceux qui ont été envoyés. Le monde ne peut m'accepter car je ne suis pas de ce monde. Cependant, ceux-là, dont la nature est imprégnée d'une portion de l'autre monde, ces gens-là m'acceptent et m'accepteront. Celui qui se détourne de moi se détourne de celui qui m'a envoyé. Et celui qui établit une relation avec moi établit une relation avec celui qui m'a envoyé. Je tiens une lampe dans mes mains. Celui qui vient vers moi bénéficiera certainement de cette lumière. Mais celui qui, par malveillance, s'enfuit sera jeté dans l'obscurité. Je suis la citadelle de sécurité pour cette époque. Celui qui pénètre dans cette forteresse sera à l'abri des bandits, des voleurs, des bêtes sauvages. Celui qui cherche à rester éloigné de mes murs sera de toutes parts confronté à la mort, et même son cadavre ne sera pas épargné. Qui est celui qui pénètre dans ma citadelle? Uniquement celui qui rejette le vice et adopte la vertu, délaisse la malhonnêteté et marche sur le chemin de la vérité, se libère des liens sataniques et devient un serviteur obéissant d'Allah. Tous ceux qui font ainsi sont en moi et moi je suis en eux. Cependant, cet état ne peut être atteint que par celui à qui Allah accorde une âme pure. Ensuite, Dieu place son pied dans l'enfer de notre fort intérieur. Et cette forêt intérieure se refroidit comme s'il n'y avait jamais eu feu. C'est-à-dire, il y a un feu à l'intérieur de l'homme. Et lorsque l'homme se purifie, eh bien, ce feu s'éteint complètement, le feu de son âme se refroidit. Ensuite, il déclare que, puis il s'avance jusqu'à ce que l'Esprit d'Allah réside en lui. Et par une manifestation exceptionnelle, le Seigneur du monde s'établit dans son cœur. C'est-à-dire, Dieu établit son trône en son fort intérieur et son ancienne humanité est alors consumée et fait place à l'humanité nouvelle et pure qui lui est accordée. Allah devient un nouveau Allah qui établit une relation spéciale avec lui et il est muni en ce monde des purs accessoires de la vie céleste. Voilà donc les enseignements, voilà donc les attentes du Messie promis l'Islam. Il s'attendait à ce que nous suivions ses préceptes. Voilà ses attentes à propos de ceux qui lui ont prêté allégeance. Voilà le niveau que doit atteindre celui qui lui a prêté allégeance. Aujourd'hui, nous devons faire notre analyse de conscience. Sommes-nous en train de suivre ces conditions? Que Allah éloigne nos faiblesses et nos péchés et que nous puissions apporter en nous des changements purs. Et s'il y a en nous quelques vertus, que nous puissions faire rehausser le niveau de ces vertus. afin que nous puissions atteindre l'objectif de la Bayra, du serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie promis à
l'Islam.
J'avais pris quelques notes concernant le Pakistan, car le 23 mars, on célèbre l'indépendance du Pakistan. À ce propos, je demande aux Ahmadis d'origine pakistanaise de prier pour leur pays, car le pays est en train de traverser une période extrêmement périlleuse. Qu'Allah protège ces pays pour les Ahmadis, car les Ahmadis ont beaucoup prié pour ce pays et pour sa protection. On dit aujourd'hui le contraire, c'est pour cette raison que je vais présenter quelques faits qui démontrent le rôle joué par les Ahmadis pour construire ce pays. Le journal Dor-e-Jadid, dans son numéro de 1923, a écrit à propos de Chaudhry Muhammad Saifullah Khan. Quand tous les musulmans du Punjab, au sein du conseil du Punjab, celui-là même qui mérite de représenter les musulmans, a ressenti que quelqu'un devrait le représenter au Royaume-Uni, eh bien on a choisi Chaudhry Muhammad Saifullah Khan. Ainsi, on l'a élu pour ce poste et Chaudhry Saifullah Khan a dépensé de sa poche et a présenté d'une façon extraordinaire ses affaires au gouvernement britannique et aux politiciens. Et les musulmans du Punjab et le gouvernement ont fait ses éloges. Voilà les faits, voilà les vérités qu'aucun journaliste ne peut nier aujourd'hui. Ensuite, il y a un grand écrivain dont le nom est Maulana Muhammad Ali Johar. Dans son journal Hamdard du 26 septembre 1927, il écrit que ce sera de l'ingratitude de ne pas mentionner Mirza Bashir Uddin Mahmoud Ahmad et sa jamaat bien organisée, car ils se sont consacrés pour servir les musulmans en dépit des différences doctrinales. Le temps est proche où les actions des Ahmadis, de ce groupe musulman bien organisé, vont servir de ligne de conduite pour les musulmans en général et en particulier pour ceux qui ont la prétention de servir l'islam et qui se contentent de faire des déclarations vaines à ce sujet. Le Maulana Muhammad Ali Johar n'est pas en train uniquement de faire les éloges des Ahmadis et de la Jamaat Ahmadiyya, mais il déclare que les Ahmadis sont des musulmans. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de faire des efforts pour effacer le nom des Ahmadis dans l'histoire du Pakistan. On n'accepte pas les Ahmadis comme musulmans historiquement, ni la Constitution non plus n'accepte pas que les Ahmadis sont des musulmans. Un autre grand écrivain, Raja Hussain Nizami, a écrit à ce sujet que il y a eu cette conférence de la table ronde et tout hindou, musulman, anglais ont accepté les mérites de Chaudhry Muhammad Saifullah Khan et ils ont dit que s'il y a un seul musulman qui ne tient pas des propos inutiles et futiles et qui reconnaît les difficultés de la nouvelle politique, eh bien, ce musulman, c'est Chaudhry Muhammad Saifullah Khan. Cela a été écrit dans le journal Munadi du 24 octobre 1934. À propos du progrès du Pakistan et par rapport à la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, un certain Dr. Rashik Hussain Batalvi a déclaré que les musulmans qui ont remporté plus de succès au sein de la conférence de la table ronde sont Aga Khan et Chaudhry Muhammad Saifullah Khan. Il a écrit un ouvrage donc à propos des deux dernières années de Muhammad Iqbal. Cela a été publié au Pakistan. Hazrat Qaid-e-Azam Ensuite, Qaide Azam, le fondateur du Pakistan, avait évoqué son retour en Inde et dans la politique. Il a déclaré que j'avais ressenti que je ne pourrais pas retourner pour aider l'Inde. Il avait quitté l'Inde et s'était établi au Royaume-Uni. Il dit que je ne pouvais pas apporter de changement dans la mentalité hindoue, je ne pouvais pas ouvrir les yeux des musulmans. En fin de compte, j'ai décidé de m'établir en Angleterre. Cela a été publié dans un livre écrit par Raïs Jafri. La Jamaat Ahmadiyya a fait des efforts pour qu'il retourne dans l'arène politique. Le deuxième calife avait demandé à l'imam de la mosquée de Londres, le Maulana Abdurrahim Dard, de le convaincre afin qu'il retourne en Inde pour qu'il guide les musulmans, afin qu'ils puissent retrouver leurs droits. Et en fin de compte, Qaide Azam, le fondateur du Pakistan, est retourné en Inde et a décidé d'aider les musulmans. Et il a déclaré que l'éloquence de l'imam de la mosquée de Londres m'a convaincu et ne m'a pas laissé d'échappatoire. L'éloquence de l'imam de la mosquée de Londres m'a convaincu et ne m'a pas laissé d'échappatoire. Un journaliste de grande renommée, Mohammad Shafi, a écrit quelque chose en disant que M. Liaquat Ali Khan et l'imam Abdurrahim Dad ont convaincu Mohammad Ali Jinnah de changer de point de vue et de retourner au pays afin qu'il puisse jouer son rôle dans la politique. Et M. Jinnah est retourné en Inde en 1934. Il a joué son rôle dans l'Assemblée. Cela a été publié dans le journal Pakistan Times du 11
septembre 1981.
Même les adversaires les plus acharnés de l'Ahmadiyya ont accepté certains de ces faits. Ainsi, la Majlis-e Ahrar a écrit un ouvrage sur la Muslim League et le lien avec la Jamaat Ahmadiyya. Cela a été publié en 1946. Il a déclaré que M. Jinnah a fait un discours à Quetta. Il a évoqué le soutien de Mirza Mahmoud en faveur de la Muslim League. Ensuite, quand il y a eu cette élection dans le centre, eh bien, tous les Ahmadis ont voté en faveur de la Muslim League. Un érudit des Ahl Hadith, Mir Mohammed Ibrahim Salkoti, a écrit un livre sur l'histoire du Pakistan. Il dit que le fait que les Ahmadis sont sous la bannière de l'islam est un fait que la Muslim League est le seul parti qui est en train de servir les musulmans. C'est-à-dire, selon lui, les Ahmadis sont des musulmans et qu'ils ont joué un grand rôle dans le Pakistan. Chaudhry Mohammad Zafar Khan a œuvré au sein de la commission sur la frontière. Emir Nizami, le fondateur du journal Nawai Waqt, a écrit à ce sujet. Ce journal écrit beaucoup de choses contre la Jamaat aujourd'hui, car ils ne cherchent que leurs avantages. Mais le fondateur, M. Hamid Nizami, qui était le fondateur de ce journal, écrit que Chaudhry Zafar Khan a défendu les musulmans de manière éloquente et brillante lors de la commission sur la frontière. C'est Dieu qui accorde du succès, mais Chaudhry Zafar Khan a présenté le cas des musulmans avec succès. Et cela doit convaincre les musulmans qu'on a présenté leur cas aux autorités avec justice et de manière appropriée. Zafar Khan a eu peu de temps pour préparer le dossier, mais il s'est acquitté de son devoir de la meilleure façon. Et nous avons la certitude que tous les musulmans du Punjab lui seront reconnaissants. Lorsqu'il y a eu les troubles de 1953, il y a eu une commission d'enquête qui a été dirigée par le juge Munir. Il a déclaré qu'on a accusé à tort les Ahmadis, des accusations qui étaient infondées en raison de l'antipathie contre eux. Ils ont dit que Gurdaspur se trouve en Inde car les Ahmadis ont joué un rôle particulier et Chaudhry Zafrullah Khan était censé le représenter les musulmans. Et il a préparé des arguments particuliers. Voilà l'accusation. Mais moi-même, dit le juge, moi-même j'étais membre de cette commission. Et je dois lui remercier pour l'effort qu'il a fait. C'est-à-dire, je remercie Chaudhry Zafrullah Khan pour l'effort qu'il a fait. L'effort qu'il a fait à propos de la région de Gurdaspur. Cela est évident dans les papiers de cette commission. Celui qui veut étudier cela doit lire les archives. Chaudhry Zafrullah Khan a servi les musulmans en toute abnégation. Mais en dépit de cela, certains groupes religieux ont évoqué son nom de manière honteuse lors de cette commission d'enquête. Et cela démontre leur ingratitude éhontée. Cette ingratitude éhontée est en train de grandir de jour en jour, surtout dans les partis politiques. Et on connaît déjà l'état de ce pays, qu'est le Pakistan. C'est pour cette raison que vous devez prier pour ce pays. Les Ahmadis pakistanais doivent prier pour leur pays, que la protège ce pays de cette destruction qu'ils sont en train d'inviter.